Magnifique.
Tais-toi, Georges.
Pas tout de suite, Georges, pas tout de suite.
Bonjour à tous. Pour cette première table ronde matinale, alors, le thème de cette table ronde porte, en fait, il y avait deux questions. La SF Jeunesse doit-elle respecter l'exactitude scientifique? A-t-elle mission de vulgarisation? J'ai proposé à l'ensemble de mes intervenants qui en étaient d'accord que la première question, nous y répondions directement par non. La science-fiction jeunesse ne doit rien à personne. Donc, essentiellement, comme toute littérature, les auteurs sont libres et je pense qu'on peut passer directement à la suivante. Donc, on va essentiellement s'intéresser à l'utilisation de la SF jeunesse pour des missions de vulgarisation. Et puis, comme dans toutes les tables rondes, en fonction de ce que nous dirons nos intervenants, eh bien, on partira dans une direction ou l'autre. Ça, je ne me fais aucun souci vu la table ronde que j'ai devant moi et d'ailleurs les autres auteurs présents dans la salle. Hein, dans les auteurs jeunesse dans la salle, on a au moins Jean-Louis Trudel, ici présent. Tu peux nous faire un petit coucou? Jean-Louis qui nous vient du Canada.
Et Olivier Paquet.
Et Olivier, qui vient d'arriver, et Olivier Paquet, qui nous vient beaucoup plus banalement de France.
Ah, il y a Laurent quand même.
Et il y a Laurent Jeunefort, qui a commis quelques œuvres plutôt pour les ados aussi.
Mais pas de SF.
Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Donc on a Pierre Stolz devant nous, ici présent, qui est un auteur SF d'une façon générale, qui a commis quelques œuvres de jeunesse. Tu veux bien nous les montrer?
Alors j'ai fait une série de voyages dans le temps, la série Isidore. Alors Isidore est un collégien de Metz qui a trouvé le moyen de voyager dans le temps lors de l'éclipse de 1999. Et dans le premier livre, il va se retrouver dans la Chine ancienne, à l'époque du premier empereur Qin Shi Huangdi. Je suis désolé, il s'appelait comme ça. Et là, il va rencontrer une fille de son âge qui, elle aussi, voyage dans le temps. Elle vient de la préhistoire. On saura plus tard qu'elle vient du site de Stonehenge, dans le sud de l'Angleterre. Et ça me permet de présenter la civilisation chinoise de l'époque avec de l'amour et de l'aventure. Et ces deux mêmes personnages, après, vont se retrouver dans l'Égypte des pharaons à l'époque de Néfertiti, puis chez les Aztèques au Mexique, au moment où les conquistadors arrivent, ils vont se retrouver au milieu des batailles, et dans le quatrième tome, ils seront dans l'Inde des Maharajas à l'époque de l'occupation anglaise. Donc à chaque fois, ça permet de présenter une civilisation différente. J'ai fait un autre livre jeunesse, là déjà pour grand adolescent, qui s'appelle Le Monastère Caché. Et c'est un roman policier qui se passe entièrement dans un monastère tibétain de nos jours. Voilà.
Merci Pierre. Daniel Martinigol, qui a écrit plus qu'un bouquin pour les jeunes. Alors, Daniel est une auteure jeunesse de
SF. Oui, moi, pure
et dure. Et pour ceux qui auront l'occasion d'aller à Scientilibre, aux Journées Scientilibre de la Bège, c'est une abonnée à la Bège. Il suffit, avec Christian, de voir la file de jeunes devant ces livres avec des yeux écarquillés. C'est la dame qui écrit mes ouvrages favoris pour se convaincre que, d'une façon générale, la SF jeunesse, ça a du succès. Tu veux bien nous parler un petit peu de...
J'en parlerai peut-être plus en détail à l'occasion des questions, mais ceux qui sont là, ce sont les deux derniers, Les pierres qui pleurent et Le maître chêne, qui sont les deux premiers tomes des aventures à Guédelon et qui sont donc, si on raccroche ça à la science-fiction, liés au voyage dans le temps, puisque les héros vont jusqu'au XIIIe siècle. Voilà.
Alors j'ai rajouté à notre table ronde, parce que Roland Lehoucq ne pouvait être présent, Éric Pichol, qui est un physicien, auteur...
Ce qui arrive dans les meilleures familles.
Parce que pour parler de science, c'est pas mal d'avoir un scientifique dans la salle. Alors il y en a d'autres, Jean-Louis, au moins, Pascal, Joseph... Ah, les maths, c'est pas des sciences. Bon, alors on va pas s'engager dans cette discussion.
Non, je me moque de la nomenclature de l'enseignement primaire.
Et donc Eric, en plus d'être physicien, est un auteur SF souvent un peu trop rare.
Je suis la compagnie, pas vraiment.
Bon, en tout cas, je lui ai proposé de nous rejoindre parce qu'il a écrit très récemment une petite nouvelle pour une revue américaine. Tu veux bien en parler un petit peu?
Oui, là encore, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'était un exercice de style pour une revue américaine, News, qui voulait faire un numéro spécial pour l'anniversaire de le centième anniversaire de la théorie de la relativité générale. Et j'avais trouvé que c'était un défi intéressant de faire un texte raisonnablement rigoureux sur la relativité générale pour les gamins de 10 ou 12 ans.
Et enfin, Christian. Christian Bonnier. Je veux dire notre grand ancien. Ce serait bien. Mais tu écris.
Tu peux me vieillir, c'est pas grave. J'assume.
Mais depuis combien de temps écris-tu des romans pour SF pour la jeunesse?
43, 44 ans, je ne sais plus, 72. Mon premier bouquin, c'est 60, pour la jeunesse, 72, donc 44 ans. 44 ans.
Voilà. Et qui affirmait très clairement qu'il était un auteur SF jeunesse, j'ai souvenir, dans un ouvrage.
Entre autres, parce que j'ai trompé un peu la science-fiction avec le policier, avec d'autres genres, mais c'est vrai que j'ai publié pas mal de bouquins de science-fiction destinés aux jeunes, dans des collections pour la jeunesse.
Avec des mélanges polar et SF, on aura l'occasion d'en parler, je pense. Alors la première question, alors oui, je ne me suis pas présentée, pardon. Donc moi, c'est Estelle Blanquet, je suis formatrice à l'ESPE, en physique. Je suis maître de conf en sciences de l'éducation également. Et j'utilise beaucoup de SF dans mes cours pour aider des futurs enseignants du primaire, pour qui les sciences, c'est très loin, et souvent ça leur fait peur. Et j'utilise la science-fiction et les textes de science-fiction, des images de science-fiction, pour travailler les sciences avec eux. Voilà. Et donc là, la première question que j'aimerais bien poser à tous mes intervenants, c'est la question de la table ronde, fondamentalement, à votre avis. La science-fiction jeunesse a-t-elle mission de vulgarisation scientifique? On va commencer par ta réponse, Pierre.
Non. D'autant plus que je ne suis surtout pas scientifique. Je suis un pur littéraire. Alors en physique, chimie, j'y connais rien du tout. Quelle est une mission, disons, pédagogique, d'accord? Là, oui, c'est ce que je fais. Mais scientifique, non. Comme disait Frédéric Dard, qui a parfois parlé de fusée, il dit qu'importe que ma fusée marche au kérosène ou au gruyère râpé, pourvu qu'elle marche. Ça, c'est voilà.
Excuse-moi, Pierre, je ne suis pas d'accord avec toi dans la mesure où, quand tu mets en scène des civilisations passées,
ah oui, ça, c'est autre chose.
Qui vérifie ce que tu racontes.
Ah oui, mais ça je peux reparler, ça, c'est autre chose.
L'histoire, je ne sais pas, mais mes collègues historiens, je les considère comme faisant partie des sciences humaines et étant soumis à des.
Oui. Oui, je me renseigne absolument sur les décors, par exemple, à chaque fois. Les habitations, les habillements, qu'est-ce que l'on mange? Quand j'étais jeune, quelque chose qui m'étonnait, c'est que les personnages ne faisaient jamais pipi-caca. Mais c'est incroyable. Ils vivent des aventures, jamais. Et moi, dans chacun de mes livres, on voit les toilettes. Comment ça fonctionnait chez les Égyptiens ou chez les Aztèques? Et quand Isidore veut faire pipi, il est surpris parce qu'il y a l'eau courante dans les WC des Aztèques. Et là, je me suis renseigné. Donc, effectivement, il y a bien une recherche rigoureuse quand je décris mes civilisations.
Daniel. Alors moi, je vais moduler en fonction de ce qu'a dit Pascal. C'est vrai que pour les romans historiques, je me renseigne aussi énormément. Je fais des recherches pour ne pas dire de bêtises, bon, je reste à la surface des choses. Moi, je n'ai pas encore envisagé les toilettes, mais bon, il va falloir peut-être que j'y pense.
Ça, ce n'est pas la surface des choses.
Et, mais c'est vrai que ça me demande, en amont de l'écriture, beaucoup de recherches pour découvrir, parce que je découvre par même occasion. Bon, je suis marié avec un prof d'histoire géo, ça aide d'avoir un historien à la maison, mais pas toujours d'ailleurs, parce que l'aspect fictionnel que j'ai envie de donner aux événements historiques, lui, il reste dans la rigueur en me disant « Oui, non, mais Blanche de Castille n'était pas là à ce moment-là, bah, tant pis, elle y sera, puis c'est tout. » Et donc, c'est, bon, au moins, je sais que je transgresse, là. Mais en ce qui concerne la science-fiction, disons, tournée vers le futur et vers l'exploration spatiale, je ne pense pas faire œuvre de vulgarisation scientifique dans mes livres de science-fiction qui se déroulent dans l'espace, mais je suis vigilante à ne pas raconter de bêtises, disons. Et surtout, comme j'aime beaucoup l'astronomie mais vraiment complètement sans rien y connaître, mais j'ai la chance d'avoir un ami astronome qui a travaillé très longtemps à l'observatoire de Nice-Côte d'Azur. Et donc il m'a appris, c'est lui qui m'a fait observer pour la première fois des étoiles dans un télescope, et il m'a appris beaucoup de choses, et je ne veux pas, si je parle d'astronomie, de distance astronomique, de planètes, de constellations, d'étoiles, etc., j'essaie de rester dans la vérité scientifique, sinon je ne dis rien. Alors évidemment, ça passe par l'hyperespace pour aller jusqu'à Andromède, mais enfin bon...
Le trou de ver.
La distance entre Andromède et puis la Voie lactée, elle est exacte dans le roman. Voilà ce que je veux dire, même si on va passer par la Stase pour y aller, etc., mais la distance qui est mentionnée sera exacte. J'ai pu faire des erreurs, mais je les ai faites à ce moment-là en toute innocence, si j'ose dire. Mais j'essaie de respecter cette vérité scientifique-là. Quand on a écrit avec Alain Grousset notre premier roman en commun, qui est Les Manches Forêts aux éditions Nathan, qui est un des romans que j'ai écrit qui a eu le plus de succès avec Les Oubliés de Vulcain, avec Alain, il y a une bataille dans l'espace à un moment donné. Ça nous a semblé évident de dire que la gamine était terrorisée le long de la paroi du vaisseau spatial par les éclairs qu'elle voyait par les hublots, mais absolument pas par le bruit des fusées ou des tirs ou de quoi que ce soit. Et justement, la mention est faite, c'est des romans pour des gamins de 9 ans, enfin 8-9 ans, la mention est faite, et au moins elle est contente parce qu'il n'y a pas de bruit dans l'espace. Voilà. En plus, quoi, les éclairs de lumineux suffisent à l'effrayer, et au moins il n'y a pas de bruit. Alors ça, on en a eu la remarque par une flopée d'enseignants qui nous ont dit « Ah, c'est bien d'avoir signalé qu'il n'y a pas de bruit dans l'espace, ça nous permet de rebondir avec les élèves, parce que pour eux, c'est Star Wars, c'est bzim bzim dans tous les sens, etc. » Donc voilà, si vulgarisation scientifique il y a dans mon œuvre, ça serait plutôt ce genre de choses.
Éric ? Moi, je suis tenté de te répondre sur deux plans, sur le plan individuel et sur le plan collectif. Sur le plan individuel, il me semble évident qu'il n'y a aucune obligation, comme tu le disais, pour chaque auteur dans chaque livre de faire quoi que ce soit. La seule obligation pour un auteur quand on s'adresse aux jeunes, c'est fondamentalement de respecter leur intelligence. À partir du moment où où un auteur fait consciencieusement son job d'auteur et raconte l'histoire qu'il a envie de raconter intelligemment, tout est parfait. Il n'y a pas de raison de créer d'obligations supplémentaires, et a fortiori, il n'y a aucune raison de se créer une obligation de parler de science ou de faire de la vulgarisation scientifique. C'est pas une mission ardente que pourrait avoir chacun à chaque instant. Donc il me semble évident qu'il y a des auteurs jeunesse en science-fiction qui parlent de science, d'autres qui n'en parlent pas, et c'est très bien comme ça. Sur le plan collectif, là je suis tenté de dire qu'il y a effectivement une mission de la science-fiction, mais presque par défaut. Le reste de la littérature au XXe siècle a très largement abandonné le terrain scientifique. La science était un sujet de littérature depuis toujours, enfin depuis Hésiode jusqu'à Lucien, évidemment, mais au XVIIIe siècle, c'était une évidence que les grands auteurs devaient parler de science. Cyrano de Bergerac. Enfin, la science a toujours fait partie de la littérature. Jusqu'au XIXe siècle, il y a une réaction des romantiques qui ne voulaient plus parler de science, et au XXe siècle, ça a quasiment complètement disparu. On parle de tout, on parle de son nombril, on parle de beaucoup de choses, mais on ne parle plus de science. Et la branche de la littérature qui a relevé le défi et qui a continué à parler de science, pour moi, c'est la science-fiction. C'est malheureusement presque exclusivement la science-fiction. Et donc à partir du moment où la science-fiction a accepté ce fardeau et cette mission, en quelque sorte, de parler de science, bah, la science-fiction jeunesse est aussi la partie de la littérature jeunesse dans laquelle on a une chance de parler de science. Et un enseignant ou un parent qui a envie de donner un livre parlant de science à un enfant, et parlant intelligemment de science de préférence, va assez naturellement, me semble-t-il, aller chercher des livres de science-fiction, a de bonnes chances d'y trouver de très jolies choses, et à la fois des idées, à la fois des évocations de théories réputées compliquées ou réputées trop subtiles pour les petits, alors que je suis intimement persuadé qu'on peut parler de tout pour tous les âges, il suffit d'adapter le discours. c'est du boulot, mais c'est du boulot pour l'auteur, pas forcément pour le lecteur. Et oui, donc je crois que collectivement, il y a pour une part une mission de vulgarisation de la science-fiction jeunesse, et qui globalement me semble assez bien remplie. Encore, chaque livre de science-fiction jeunesse ne parle pas de science, mais on a des auteurs qui font très attention. Tu évoquais Jean-Louis, qui est un auteur plutôt hard science pour les adultes, et qui n'hésite pas aussi à parler de choses relativement sophistiquées pour les jeunes. Je suis un admirateur pratiquement inconditionnel de Robert Heinlein. On trouve aussi chez Heinlein des jeux pour la jeunesse sur à peu près toutes les grandes idées scientifiques du XXe siècle. Et donc, globalement, il me semble que ce travail est fait et plutôt bien fait par la science-fiction jeunesse.
Bon, tout a été dit. Hein. Je peux bien préciser que dans aucun de mes bouquins, par contre, Pierre, je n'ai de vaisseau qui fonctionne avec du gruyère râpé. On peut trouver ça peut-être chez Terry Pratchett, je ne suis pas sûr. Hein, bon. Mais chez moi, non. Et je pense que cette mission de vulgarisation est aussi un choix d'un auteur qui ne va pas dans le merveilleux, ni dans le fantastique, ni dans la fantasy, mais qui va qui choisit de raconter une histoire de science-fiction pur et dur, peut-être pas de la hard science, mais une histoire de science-fiction. Et dans ce cas-là, il veille à la vraisemblance. Alors, il y a toujours un décalage avec la réalité. Moi, quand mes vaisseaux dépassent la vitesse de la lumière, et ça m'arrive, je dis que Einstein avait raison, mais qu'on a réussi à contourner la difficulté. Je justifie par une pirouette, certes, mais la plupart du temps, d'ailleurs, mes vaisseaux ne franchissent pas la vitesse de la lumière. Le hasard veut que ce matin, j'ai dédicacé le satellite venu d'ailleurs, qui est une histoire relativiste, c'est le voyageur de Langevin. Donc, il y a un vaisseau, effectivement, mais qui approche la vitesse de la lumière et avec un décalage temporel qui correspond tout à fait à la science. C'est mon choix. Si je ne maîtrisais pas le sujet ou si je ne voulais pas en parler, je n'aurais pas choisi de raconter une histoire avec un voyage relativiste. Si je choisis de raconter une histoire avec le voyageur de Langevin, il faut que je me renseigne et que du coup je vulgarise puisque je m'adresse à un public jeune. Dans ce roman qui est presque aussi vieux, puisque ça a 40 ans, tout ça, plus de 40 ans quelquefois, Le Soleil va mourir, je parle des centrales nucléaires et des déchets à longue durée de vie. Ce qui veut dire que j'ai été au Tricastin, j'ai été à Saint-Laurent-des-Eaux, je me suis renseigné. D'ailleurs, les ingénieurs de ces deux centrales m'ont invité parce qu'ils ont lu le bouquin. Et ils étaient d'ailleurs, je ne suis pas étonné, mais bon, quand je parle, oui, de strontium, de césium et de 28 000 ans avec des déchets dont on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire. Ça, c'était il y a 40 ans. Hein. C'était avant le fait qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire des déchets. On a commencé à fabriquer des déchets avant de se demander ce qu'on allait en faire. Bon. Alors j'ai par contre, réédité d'ailleurs, parce que ces bouquins sont parfois réédités. Par contre, j'ai une mission dans une collection qui s'appelle Science, la science en tête, pour laquelle je travaille depuis 3 ans, et c'est une collection pédagogique, la CEDRAP, éditeur pédagogie, voilà. Et donc pour les 8-12 ans, c'est marqué derrière, j'écris sans savoir pour quel tranche d'âge je m'adresse, mais la mission est de parler d'astronomie, de l'air, du réchauffement climatique, enfin, il y a un cahier des charges, je l'ai accepté, mais dans la mesure où j'accepte le cahier des charges, je raconte une fiction, je tente de m'adresser à un public particulier, mais en même temps, je suis contraint de vulgariser, puisque je l'ai choisi. J'aurais très bien pu dire, non, je ne veux pas écrire pour cette collection La Science en tête, mais là, effectivement, il y a une mission pédagogique, une mission de vulgarisation. Moi, je fais partie des auteurs qui l'acceptent, mais cela dit, quand j'écris un roman de science-fiction, je ne me suis chargé d'aucune mission, mais quand je traite d'un sujet particulier, je me renseigne, et je veille d'autant plus à ne pas être en contradiction avec les connaissances actuelles que le public le plus exigeant, ce n'est pas les adultes. C'est les jeunes, c'est les enfants. Les enfants vont dire, là vous avez dit ça, pourquoi ? Ça vient d'où ? Comment le savez-vous ? Et il faut justifier. Donc je me méfie énormément du public pour lequel j'écris.
Vous voulez réagir ? Pierre ?
Non mais c'est vrai, les jeunes c'est vraiment le public le plus exigeant. Ils ne laissent rien passer. Les adultes, quand il y a des contradictions, quand ils lisent du Bernard Werber ou ces bourrés d'idioties scientifiques, ça ne les gêne pas. Mais les gamins, eux, ça va les gêner.
Est-ce que vous recevez beaucoup de courriers? milliers d'écoles, d'enseignants, d'enfants qui me posent des questions par rapport à ces aspects-là
Non, moi ce que je reçois, c'est j'avais votre livre à lire pour demain, j'ai pas eu le temps de le lire, est-ce que vous pouvez m'envoyer le résumé? Ça m'arrive très fréquemment. Alors, en général, je ne réponds pas au premier mail. Arrive un second mail où cette fois, évidemment, suivant la nette éthique, c'est écrit en majuscule. Et parce que là, je sens que mon jeune lecteur s'énerve. Et puis, ça se termine assez souvent par un mail des parents, de la mère. En général, le père, on s'en fout. Madame, mon fils, vous a, parce que c'est généralement les garçons, hein, vous a envoyé un mail à deux reprises, etc. Alors donc, il y en a une un jour qui a tellement insisté que j'ai fini par répondre en disant que j'étais prof de français et puis que j'aurais pas vraiment aimé noter les fiches de lecture envoyées directement par l'auteur. Mais un jour, c'était arrivé à un tel point que j'ai failli... Je me suis retenu quand même, mais vraiment, je me suis vraiment retenu. Envoyer le résumé d'un autre bouquin. J'ai tenté d'envoyer le résumé d'un autre de mes romans, mais bon, je me suis dit non. Mais sinon, c'est quand on les rencontre qu'on a les réactions immédiates. Et quelquefois, le professeur arrive avec sa classe et vous dit... Alors, ils ont tous lu le livre. Je pose la question, je dis, bon, vous oubliez que votre professeur est là, qui l'a vraiment lu? Alors là, il y en a déjà beaucoup moins qui lèvent le doigt. Et ceux qui ne lèvent pas le doigt, je leur dis, alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous ne l'avez pas lu? Moi, j'aime pas lire, c'est trop long, j'ai eu le livre il n'y a pas longtemps, si jamais ce sont des livres qui sont achetés à titre personnel. Et puis, il y en a qui disent, franchement, c'est ce que disait Pierre, il y en a qui sont francs, ils disent, j'ai commencé, ça ne me plaisait pas, j'ai arrêté. Voilà. Et ça, jamais un lecteur adulte ne dira à un auteur, j'ai commencé votre bouquin, ça ne me plaisait pas, j'ai arrêté. Ça, alors là,
ça m'est arrivé.
Moi, je l'ai fait dans une critique pour Drood. De Dan Simmons.
Mais aussi. Moi, je travaille surtout en collège. Je me suis rendu compte que ce sont les filles qui lisaient.
Oui.
Et les garçons, de moins en moins. Et pour les garçons, la lecture, c'est un truc de fille.
Hein. Oui, est-ce qu'il te parle des aspects scientifiques, en tout cas historiques, de tes ouvrages? Est-ce que la part d'histoire, la part de vrai et de romanesque.
Oui, je demande vraiment, mais comment vous êtes renseigné pour savoir. L'aspect physique du premier empereur. Alors j'arrive avec des documents, avec des vieux portraits du premier empereur, non mais des documents qui ont été faits au 5e, 6e siècle, et je leur montre, ben, je lui décris avec sa petite moustache, sa barbiche, telle qu'il était dessiné là, sa curieuse coiffure, c'est une espèce de plaque qui va tout droit, il y a des rideaux de perles comme ça, je dis, ben c'était pas difficile, ben, j'ai simplement décrit ce que je voyais là. Et je leur montre, par exemple, je leur explique qui s'est fait enterrer avec 7000 guerriers de Tirkut, grandeur nature, à Sian, Brandishian, et je leur montre des images. Ah ben voilà. Ah bon, ben après c'est trop facile. Oui, avec tous les documents, voilà.
Non, mais j'ai rien à ajouter. Bon, c'est vrai que notre lectorat est un lectorat de classe. Il faut dire la vérité, hein. Si nos livres se vendent, c'est parce que les profs les achètent, c'est parce que les profs documentalistes les achètent. On triche d'une certaine façon, c'est pas de notre faute, hein. Finalement, c'est comme ça que ça finit par se faire. Notre lectorat s'est transformé en un lectorat de classe, et très fréquemment, les jeunes ont beaucoup de mal, oui, à lire même nos propres bouquins, et on les force à lire, ce qui fait dire à... Tu me fais parler, je parle, mais je vais rien ajouter d'autre, hein. Le meilleur qui puisse nous arriver, souvent, c'est « Ah ben, j'aimais pas lire, et puis je l'ai lu, et puis ouais, finalement, c'est bien, monsieur. » Bon,
ouais.
Voilà, bon, c'est vrai. Ils finissent par découvrir, par s'apercevoir que ça peut être très intéressant. Mais il n'empêche qu'il arrive quand même, moi, je reçois beaucoup de mails aussi d'enfants, et quand on rencontre des classes et des lecteurs qui ont vraiment lu le bouquin, il arrive en effet que ce soit un problème, et quelquefois, il leur arrive même de dire « Mais là, je suis pas d'accord avec vous, bon. » Et il faut faire très attention parce que les enfants sont persuadés que ce qu'ils ont vu à la télé, s'il y a du bruit dans la guerre dans Star Wars, bah monsieur, on l'a vu à la télé, et vous êtes qu'un petit auteur de petits bouquins, et nous, on a vu Star Wars, et Star Wars, il y a eu des millions de... Donc c'est mieux, donc c'est plus vraisemblable parce qu'on l'a vu à la télé, quoi. le livre n'a plus le prestige qu'il avait autrefois, et les lecteurs, parfois les jeunes lecteurs, mais les lecteurs adultes aussi, croient en savoir davantage parce qu'ils l'ont vu à la télé ou parce qu'ils en ont entendu parler. Alors que les auteurs, et je ne parle pas que des auteurs jeunesse, en général sont des gens scrupuleux, et quand il y a une contradiction ou une invraisemblance, et il y en a, et il y en a. Au cinéma, ça passe très bien, on s'en fiche complètement. En littérature, je me souviens, moi, puisque tu me donnes la parole, je vais en parler. Dans assassin.net, donc on est en 1654, c'est la date en novembre de l'assassinat vrai, véritable, de Cyrano de Bergerac, qui reçoit une poutre sur la tête. Bon, donc j'ai étudié ça de très très près, et je fais donner rendez-vous à mon personnage, on est dans un monde virtuel, je crois que c'est Notre-Dame-des-Champs. C'était Saint-Eustache. Merci, c'est mon épouse qui est ici et qui est ma mémoire, parce que moi je ne relis pas mes bouquins, mais elle les connaît mieux que moi. Il y a aussi mon webmaster, Patrick Moreau, à côté d'elle, et qui en sait. C'est mieux que s'il les avait. Moi je les ai écrits, mais lui il les a très bien lus par contre. Il en sait plus que moi sur mes propres bouquins. Et donc le bouquin est passé entre les mains de je ne sais combien de lecteurs, dont une prof d'université spécialiste du XVIIe siècle, qui a dit non, Saint-Eustache à ce moment-là était en travaux, il y avait une palissade. Il fallait refaire le clocher et votre description ne correspond pas à la réalité. J'ai corrigé en me disant, mon Dieu, sur les 14 000 lecteurs du bouquin, combien vont noter cette invraisemblance? Bon, ben, y en a une qui l'a noté, c'était la lectrice universitaire spécialiste du XVIIe siècle. Il l'a noté. Et j'ai corrigé.
Le fait que vous ayez un public qui lit en classe, est-ce que ça oriente les messages que vous voulez faire passer? Est-ce que du coup, sachant ce public contraint, on va dire, contraint et forcé de lire, est-ce que ça vous amène à vous dire, bah, tiens, je vais en profiter pour faire passer des messages explicites ou déguisés sur des contenus scientifiques ou sur l'approche scientifique, sur les méthodes scientifiques? Parce qu'on a beaucoup parlé de contenu, mais pas tant que ça d'approche. Est-ce que vous essayez de faire passer la méthode scientifique à vos jeunes lecteurs dans vos ouvrages?
Enfin, moi, j'écris pas en pensant que le livre va être étudié en classe. Là, vraiment jamais. D'accord. Je fais souvent des salons jeunesse dans ma région. Et d'abord, c'est pour les jeunes qui viennent acheter mon livre et qui vont le lire chez eux à la maison. Pas du tout en classe. Il se trouve qu'après coup, effectivement, il y a des classes qui me demandent des séries de bouquins qui vont être étudiés en quatrième ou en troisième. Mais d'abord, je pense, le lecteur qui va lire ça, ou surtout la lectrice, chez elle. Donc, je n'ai pas du tout l'idée en tête de faire quelque chose qui soit pédagogique. C'est qu'il soit vraisemblable, bien construit, et bien renseigné, mais pas du tout dans l'optique de la classe, quoi. Au contraire, ça m'embête beaucoup quand c'est étudié en classe, parce que ça devient pesant pour les élèves. On est obligé de lire ça. Je préfère que ce soit les jeunes qui l'ont acheté pour le lire sans que les ait obligés.
Moi, c'est pareil. J'écris les livres que j'ai envie d'écrire, mais pour ceux qui sont liés à Guy Delon, là, j'ai une contrainte. C'est de respecter, en quelque sorte, l'actualité du chantier médiéval de Guédelon, c'est-à-dire j'essaie de parler des ouvriers et des techniques du Moyen-Âge qui sont abordées par les ouvriers qui travaillent sur le chantier de Guédelon. Donc je suis obligé de d'avoir une approche pédagogique dans le sens où le chantier est très souvent visité par des classes, par des enfants qui viennent faire des ateliers en classe médiévale sur le chantier de Guédelon. Donc je suis obligé de rester dans cette contrainte-là. Mais sinon, pour ce qui se passe au niveau des aventures, etc., j'écris les histoires que j'ai envie d'écrire. Et en science-fiction, j'ai toujours écrit les histoires que j'avais envie d'écrire. Je n'ai jamais fait exprès de... Les seules choses sont les jurons. J'en parlais hier avec des participants de la convention. Dans les abîmes d'outre-mer, par exemple, il y a le juron fange de poulpe. J'ai fait exprès de mettre fange de poulpe. Je me suis trouvé un jour devant des lycéens qui n'avaient pas lu le bouquin. Et quand certains en avaient lu un petit morceau, j'ai dit, vous avez remarqué les jurons? Non, pas vraiment. Il y a Fanche de Poulpe à un moment donné. Oui, je dis, ça vous dit quelque chose? Pas vraiment. Je dis, prenez les initiales. Alors, il y en a un qui réfléchit. F, D, P. Ah, fils de pute, qui me dit. Alors, je dis, ben voilà. Je dis, voilà, tu vois, je me sens... Voilà, c'est une contrainte, là. Le message que je veux vous passer, c'est que non, je ne veux pas vous apprendre, mais c'est parce que je sais que vous les connaissez, etc. Et du coup, ça avait relancé l'intérêt pour le bouquin. Conseil, mettez des jurons dans vos livres jeunesse. Mais il n'y a pas de message, quoi. Je veux dire, c'est ce que je... Je dis souvent que j'écris les bouquins que j'aurais aimé lire, mais c'est pas faux. Finalement, c'est un petit peu ça. C'est peut-être aussi parce que j'aurais aimé lire des livres où on m'apprenait des choses, justement, à vocation pédagogique, mais je ne sais pas. Je sais pas.
Oh, tu peux parler de méta-scientifique. Je pense que ça dépend beaucoup du type d'histoire et de la longueur de l'histoire. Sur une nouvelle, il est rare qu'on ait vraiment le temps de parler de méthode. Non, si on parle d'un roman, c'est-à-dire souvent de la résolution d'un problème qui se pose d'entrée au protagoniste, je ne serais pas physicien si je n'étais pas persuadé que la méthode scientifique est ce qui marche en général pour résoudre bon nombre de problèmes. Donc si on se donne un problème de type scientifique ou technoscientifique à résoudre pour le protagoniste d'une histoire, il va ou il ne va pas utiliser la méthode scientifique, mais si l'auteur cherche à être crédible et réaliste, en général, ce qui ne suit pas la méthode scientifique va se casser la figure assez rapidement, et une approche un peu plus systématique, un peu plus scientifique, marchera bien. Là encore, mon exemple, l'exemple type qui me vient à l'esprit, c'est Robert Heinlein, qui place ses jeunes protagonistes dans des situations complètement invraisemblables, qui se retrouve à devoir commander des vaisseaux pour traverser la galaxie, ou à être enlevé par des extraterrestres et embarqué sur Pluton. Et quand je suis sur Pluton, comment je fais pour revenir? Quelles sont les contraintes que je peux avoir pour revenir sur Terre? Si le protagoniste de 12 ou 13 ans doit tout inventer tout seul et sans méthode, le roman n'a aucune chance de tenir debout. Et effectivement, la solution que trouve Heinlein en général, c'est un mélange à la fois de connaissances, parce que ces jeunes héros ont certes 12 ou 14 ans, mais ce sont des adolescents compétents. Le héros heinlein est en général compétent, que ce soit un adulte ou un enfant. C'est-à-dire qu'il sait, il a bien compris tout ce qu'on est censé avoir appris ou compris à 12 ou 14 ans. Et donc les connaissances de base sur le système solaire, ou sur la galaxie, ou sur l'astronomie, ou sur la physique, sont limitées effectivement à ce que peut de façon crédible connaître un adolescent, mais celle-là, il les maîtrise vraiment. Et comme il n'y a pas vraiment de différence de nature entre les connaissances d'un adolescent et celles d'un adulte, sinon éventuellement la profondeur de la réflexion qu'on a pu avoir dessus, mais cette base-là suffit à résoudre quasiment tous les problèmes si on applique la bonne méthode, donc la méthode scientifique qui en général est celle qui permet d'arriver au but, et si on a accès à la documentation qu'il faut. Alors il y a toujours un vieux sage, un mentor quelconque, quelqu'un qui est capable d'apporter de l'information qui manque, mais encore ça fait partie de la méthode scientifique que d'aller chercher ses sources. Encore, tout dépend du traitement. Si on a un jeune héros passif avec un conseiller magique qui résout tous ses problèmes, on est dans la pure fantaisie, on n'a pas besoin de méthode scientifique. Si on a un parent ou un conseiller qui résout tous les problèmes à la place de l'adolescent, on a une histoire qui n'a strictement aucun intérêt. Le bon mélange, en tout cas le mélange qui personnellement m'intéresse quand je lis une histoire de science-fiction pour la jeunesse, m'intéressait quand j'étais plus jeune, et j'avoue que j'en dis encore aujourd'hui, c'est en général les histoires qui montrent que... Je crois que c'est une définition de Reginald Bretnor, qui était un commentateur américain de la science-fiction dans les années 50, qui définit la science-fiction comme la littérature dans laquelle le comportement des protagonistes montre que l'auteur a compris ce qu'était la méthode scientifique, la science et la méthode scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il la promeut, ça ne veut pas dire qu'il l'applique, mais qu'il l'a compris, et que ses personnages l'ont compris également. Et effectivement, alors à partir de là, on a le choix, comme toujours, de faire en sorte que ça marche ou ça ne marche pas. On choisit le bon chemin, ou au contraire, on a des tas de détours pour arriver à la bonne solution. Mais à partir du moment où on cherche à être crédible et où on cherche à résoudre un problème de type scientifique, pour moi, la question de la méthode se présente immédiatement et je ne connais pas d'autre méthode que le bon vieux cartésianisme pour résoudre des problèmes scientifiques.
Oui, ta question, Estelle, elle est à double sens, elle est perverse, parce que moi, j'ai retenu la méthode scientifique. Ça a été très... Merci pour l'explication, c'est vrai. Mais j'ai retenu aussi l'aspect... est-ce que vous ne pensez pas que vous écrivez pour que vos livres soient lus en classe et parce que c'est un bon moyen, c'est une bonne approche? Il y avait ça aussi. Il y avait ça aussi, parce que je pense que si on voulait être lu et faire partie de la prescription, on écrirait autre chose. Je veux dire par là que la science-fiction est malvenue dans le milieu pédagogique.
Elle est au programme.
Oui, mais d'autres programmes, mais il n'empêche que les enseignants, pour l'instant, la plupart de ceux que je rencontre et qui savent que j'écris de la science-fiction, ils ont été longs à convaincre. Et ils sont la minorité. Quand je vais encore en primaire et je dis je vais rarement, c'est le conte. Écrivons des contes. Je ne veux pas critiquer le milieu enseignant, j'en ai fait partie, mais le conte reste la base même, parce que dans le conte, tout est possible. C'est de la magie, on peut faire n'importe quoi, rien n'est à expliquer, ça tombe très bien. Si c'est un peu de la SF et si c'est de la science, les profs, surtout les profs de lettres, moi je suis comme toi Pierre, je suis un littéraire pur, hein. Je ne suis venu à la science que peu à peu, je suis un autodidacte sur le plan scientifique. Mais le nombre d'enseignants et d'enseignantes, parce que le milieu littéraire est un milieu féminin, comptez-moi le nombre de profs de français, messieurs, le nombre de documentalistes, messieurs, le nombre de bibliothécaires, messieurs. Je veux dire, moi, quand j'ai une conférence...
Mais les femmes sont pas pires. Arrête le
Ah, mais je vais enfoncer le clou. Car il m'arrive, quand j'ai une conférence à faire devant des bibliothécaires, de dire bonjour, mesdames, mesdemoiselles, monsieur. Et c'est ça. Bon. Et le nombre de dames qui me disent « Moi, je n'aime pas la science-fiction, je n'en fais plus le compte, parce que c'est terrifiant. » C'est terrifiant.
Oui, mais la proportion d'hommes est pire.
Bon, je vais clore la parenthèse. Tout ça pour dire que, et pour que ce soit clair aussi aux yeux du public, il y a la littérature de prescription. C'est-à-dire « Vendredi ou la vie sauvage », ça, c'était il y a 30 ans. Et aujourd'hui, on est plutôt dans d'autres types de textes qu'on va étudier en classe. Et je signale quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas, que le faucon déniché de Jean Comnoguès, vous avez jamais entendu parler, 2,5 millions d'exemplaires vendus. Pourquoi? Parce que j'adore Jean Comnoguès, et c'est un très bon bouquin. Mais bon, c'est pour les classes de 5e, c'est au programme, parce que, on a visé exactement la bonne... Et si on veut vendre les bouquins en 6e, il faut s'intéresser, bien sûr... je ne sais pas, aux Égyptiens, aux pharaons, aux pyramides, l'œil de Russe, Alain Surget. Tu connais l'histoire, Daniel. Hein, quand Alain Surget a dit à Evelyne Brézoupelen, comment fais-tu pour vendre 300 000 exemplaires? Elle lui a dit, écris un bouquin sur l'Égypte. Il a écrit l'œil de Russe. Et tout d'un coup, ça c'est... Bon. Si on veut être vendu en classe, Estelle, il ne faut surtout pas écrire de science-fiction. Surtout pas. C'est la dernière des choses à faire. Alors, tu vas me dire, mais tu es lu aussi, tu fais partie de la prescription. Alors, quand j'ai écrit « L'ordinateur » en 94, c'est-à-dire, c'était la dernière des choses à écrire, surtout avec la couverture, avec la tête de mort, dire, pas un prof n'aurait acheté spontanément ce bouquin-là. Je ne sais pas comment il est devenu prescrit, mais j'en suis le premier stupéfait. Et quand j'ai écrit « Virus et livre 3 » ou « La mort des livres », je me faisais plaisir à moi avec des private jokes concernant Jack London, Daniel Defoe, Boris Vian. Je n'ai pas du tout pensé que ce bouquin serait récupéré par les profs de lettres, parce que c'est un livre qui parle des livres, et qui parle de la mort des livres. Parce que là, je me suis fait plaisir. Et puis tout d'un coup, c'est magique, c'est extraordinaire. Mais la bonne méthode consiste à demander ce qu'il y a au programme et à écrire pour le programme. Quand j'ai écrit « La fille de 3e B » ou « Le pianiste sans visage », ce n'est pas du tout de la science-fiction. Mais les profs de français m'intervenaient et me faisaient intervenir en me disant « Quelle bonne idée d'avoir écrit deux romans sur la notion de point de vue !» Je disais « Comment ?» Et c'était ça, non mais Annette, mon épouse est témoin. Et je n'ai pas du tout pensé à la moindre... Bon, en plus, c'est sur la musique classique, et l'éditrice m'a dit « Quel dommage, on va les prendre, mais tu n'en vendras pas. Pourquoi tu n'as pas parlé du reggae, de la pop, du rap ?» Je dis « Parce que j'y connais rien, je connais que la musique classique. » « Quel dommage !» m'a-t-elle dit. Bon, et ça finit par se vendre, mais par des miracles dont j'ignore l'origine. Mais voilà. Alors, par contre, la méthode scientifique, je rejoins, mais... Le prof de lettres aujourd'hui, c'est la dernière des personnes qui veut passer par la méthode scientifique. Parler de Claude Bernard, dont tout le monde, ici on connaît, on sait qui est Claude Bernard, mais parlez-en aux profs de français, dire, je ne sais même pas s'ils savent qui était Claude Bernard et sa méthode. Et c'est le grand classique quand même de la méthode scientifique. Bon. Non mais je suis sérieux. Donc quand on est lu en classe et qu'on fait partie de la prescription, ce qui a été le cas des abîmes d'Outre-mer, ce qui a été le cas de la citadelle du vertige pour le complice de Daniel qui est Alain Grousset, qui n'est pas présent, c'est miraculeux. Pourquoi ? On s'interroge.
Enfin, moi, j'ai entendu à propos des oubliés de Vulcain un nombre impressionnant de profs qui m'ont dit « Vous êtes sûr que c'est de la science-fiction ?» Alors, si, écoutez, ça se passe sur une planète lointaine. Il y a un héros génétiquement modifié. On est à 400 années-lumière de la Terre. Je dis « Oui ». C'est de la science-fiction. Mais il y en a qui attendent que je dise « Ah, vous avez peut-être raison, c'est peut-être pas de la science-fiction » pour les conforter.
C'est bien écrit, surtout. Oui.
Donc ça peut pas être de la science-fiction.
Mais, oui.
Alors, c'est amusant parce que vous parlez tous... Enfin, tous. C'est la science-fiction, l'utilisation scolaire de la science-fiction est en lettres, pas en sciences.
Alors moi, quand j'avais participé à une table ronde à la Convention mondiale à Montréal, j'étais en table ronde avec une auteure qui s'appelle Julie Charneda, qui écrit de la science-fiction au Canada, et qui avait, à l'époque, je ne sais pas si elle l'a toujours maintenant, elle avait en charge l'introduction progressive de la science-fiction par le biais des sciences au Canada. Donc je sais que ça s'est fait au Canada, mais Jean-Louis pourrait peut-être confirmer si ça se pratique encore comme ça, mais il y avait une approche scientifique qui utilisait la science-fiction auprès des jeunes. Mais en France, avoir un prof de science qui collabore avec un prof de lettres et la documentaliste pour faire venir un écrivain de science-fiction, ça arrive. Mais c'est vraiment rarissime. Hein. Il faut vraiment que la documentaliste rame, et la prof aussi, pour ramener dans le projet pédagogique, parce que maintenant tout ça se monte en projet pédagogique, ramener éventuellement des professeurs de sciences. On ramène éventuellement les profs d'art plastique, ou etc., parce qu'ils vont pouvoir faire des illustrations. Ça va les occuper. Mais au niveau des sciences... C'est vraiment rare. C'est dommage, je trouve que c'est dommage, parce que ça serait un bon moyen que les élèves comprennent qu'il peut y avoir une vraie transdisciplinarité dans leur établissement scolaire. Quoi. Mais bon.
Non, je vais simplement rappeler, parce qu'elle est pas en position de le dire, que c'est précisément le genre de choses que Estelle fait.
Mais Estelle, oui. C'est un personnage, Estelle. Elle est unique en son genre. Non, mais je le dis. Je ne plaisante pas. Le nombre de gens qui utilisent la science-fiction dans le domaine scientifique, dire, ça commence, mais c'est une pionnière. C'est vrai. Les scientifiques commencent à lire de la science-fiction, ça fait 15-20 ans, mais moi j'ai connu dans les années 70, je me suis fait jeter de la Cité des sciences, du palais de la découverte, parce que j'expliquais que j'écrivais de la science-fiction dehors, monsieur, avec mes élèves, ça c'était il y a 40 ans, et c'était comme ça, c'est pas sérieux la science-fiction.
Moi j'ai été absolument sidéré quand le CEA de Grenoble m'a contacté l'année dernière en me demandant de venir participer avec eux à une réflexion sur les énergies alternatives. Et donc là je suis tombé les nues, j'aurais dit mais enfin comment vous m'avez trouvé ? Et alors il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelqu'un qui a lu Cantorien, et puis alors comme l'énergie dans votre roman est produite par la voix des chanteurs... Et là, il y a eu un blanc, et je me suis dit, oui, elle est assez givrée pour venir discuter avec nous, quoi, voilà. Alors, donc, c'est exactement ce que ça voulait dire, et donc, je suis arrivée dans une assemblée de scientifiques, enfin bon, c'était très, très intéressant, j'étais très contente d'être au milieu de tout ce monde-là. Il y a des personnes qui ont pris la parole, j'ai rien compris, mais bon, j'étais là, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait toute une démonstration en utilisant des éléments de Star Wars. Alors j'écoutais sagement, je me tenais dans un petit coin, il y avait une trentaine de personnes, puis quand même, au bout d'un moment, ça m'a titillé, parce qu'on travaillait quand même sur l'énergie, etc., et au bout d'un moment, j'ai dit, je peux prendre la parole. Alors, oui, mais bien sûr, Daniel. Et alors, je dis, qu'est-ce que vous faites de la force? Ah, Ah ben, c'est pour ça qu'on vous a fait venir, justement. Vous qui êtes dans la science-fiction, voilà, vous allez nous remettre des tas de choses comme ça. C'était très, très sympa. J'ai bien aimé. Ça s'appelle, c'est une opération qui s'appelle Atelier Arts et Sciences, donc qui mélange les deux. Et ils m'ont demandé d'écrire une nouvelle sur les énergies alternatives, ce que j'ai fait. La nouvelle est en ligne, vous pouvez la trouver sans problème. Et puis, si vous êtes à Grenoble au mois de septembre, eh bien, ma foi, venez donc écouter un acteur professionnel qui va déclamer ma nouvelle. Donc, je vais être très, très intéressée par tout ça. Mais c'est extrêmement rare. Enfin, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres amis auteurs de science-fiction qui ont été sollicités par des institutions scientifiques comme ça, mais... C'est vraiment parce qu'il y a quelqu'un qui a lu mon roman où l'énergie était produite par la voix des chanteurs et puis qui a dit ça c'est quand même bizarre quoi. Et donc,
il y a des questions déjà. Questions,
je vais faire un commentaire sur la perception de la science-fiction dans certains milieux qu'on va dire scientifiques universitaires. Moi j'ai eu la chance d'intégrer il y a quelques années l'Académie Montesquieu de Bordeaux qui est un cercle de personnalités vénérables pour lesquelles j'ai fait figure de Benjamin quand je suis arrivé parce que la moyenne d'âge est largement au-dessus. Donc beaucoup de professeurs émérites d'université, d'anciens chercheurs, d'anciens spécialistes dans des domaines extrêmement variés. Et j'ai débarqué là-dedans sur la base de l'étude que j'avais faite en 1999 sur la série Armand Perry-Rodin. Donc pour présenter un phénomène littéraire dans la littérature d'imagination. Donc personne n'entend la moindre idée. Et faire déjà une communication là-dessus en arrivant. Bon, il y a peu de temps, elle est arrivée aussi à l'Académie sur ma proposition de Natacha Vazder, qui a aussi intéressé nos confrères par une approche universitaire de littérature et d'imagination, et qui les a beaucoup interpellés quand elle leur a annoncé que François Borde, qu'ils avaient pratiquement tous connu, était un écrivain de science-fiction sous le nom de Francis Carson. Mais comment il ne nous a jamais
dit.
Et bon, la perception de la science-fiction est très variable. Alors, j'ai découvert des gens qui sont hostiles complets pour un expert en génétique biométrique, donc lui sera réfractaire à vie. Et après une deuxième communication que j'ai faite sur d'autres univers imaginaires, m'a lancé à la figure que de toute façon, il suffisait d'acheter Scientific American ou n'importe quelle revue scientifique sérieuse et de lire ça. On avait tout et il n'y avait pas besoin d'extrapoler, d'aller construire des choses intellectuelles et de ces réalités-là. Bon. Et d'autres qui, à la fin de l'exposé, ont dit « Ah, mais oui, effectivement, moi je me souviens avoir lu Yvonne Borde du jour. » Et les langues se sont liées, il s'est révélé que beaucoup de ces gens-là connaissaient la science-fiction, en avaient lu, en lisaient occasionnellement toujours, mais les premières réactions, ça a été rejet ou... on recule deux, trois pas et on regarde, mais ça t'intéresse, on est marqué. Donc là aussi, c'est pas une infiltration, mais on est déjà deux dans le cercle. À part les littératures imaginaires, moi, avec mon approche, je n'ai pas du tout celle de notre achat, je ne suis pas universitaire, je chercheur, rien du tout. Je suis passé par des études de maths et sciences, école d'ingénieurs et un peu plus dans la propulsion des missiles, donc c'est pas du tout la même chose. Mais on arrive avec deux approches complémentaires, et si on se lance sur un terrain d'études, d'un univers imaginaire, bon, on a quelque part quand même en commun une méthode scientifique, des outils différents.
Là, on est au niveau universitaire, nous.
Merci, Jean-Pierre.
Mais c'est intéressant.
Merci. Olivier, tu voulais intervenir? Parle plus fort.
Avec d'autres organisations, les contacts avec d'autres organisations ou d'autres qui font appel à des auteurs de science-fiction, quand on discute avec eux, ils vous acceptent parce que vous êtes auteur de science-fiction. En général, ils sont étonnés parce qu'on va discuter avec eux, on va aller dans les détails. Et à ce moment-là, ils sont intéressés parce que, ah, mais finalement, les auteurs de science-fiction, ils sont ancrés dans le réel. En fait, c'est ça qui... Ils sont étonnés par le fait que les auteurs de science-fiction vont s'intéresser à des détails concrets, réels, de choses pour extrapoler, et pas juste des... Donc ça aussi, c'est ça qu'il faut faire vendre aussi, c'est que finalement, les auteurs de science-fiction sont beaucoup ancré dans le réel que les gens imaginent.
Je veux dire que dans la communauté scientifique, au sens propre du terme, à savoir les universitaires, les chercheurs, j'ai jamais rencontré, scientifiques, j'ai jamais rencontré d'hostilité à la science-fiction, vraiment très, très rarement. Les gens sont curieux et, d'une façon générale, dès qu'on parle de spéculation, les chercheurs aiment bien, sont prêts à jouer. Je veux que c'est beaucoup plus difficile avec les enseignants, en particulier les enseignants du secondaire en sciences. Je crois que les enseignants secondaires en littérature sont des gens qui aiment la littérature et qui...
Mais pas la science.
Mais pas la science, mais qui sont quand même appris, qui ne font pas de complexe de supériorité. Les enseignants de sciences en collège ou en lycée sont souvent persuadés d'être beaucoup plus... D'être des scientifiques et d'être beaucoup plus forts, évidemment, que leurs collègues de dessin, de littérature. Il y a un seuil à passer. Et on est assez facilement tenu pour incompétent a priori quand on discute avec un professeur de physique typiquement de lycée. Et dans mon expérience, la façon de passer ce seuil-là, c'est de monter trois crans, les larguer une bonne fois pour toutes. Et là on peut commencer à discuter. Mais il y a une non seulement une réticence, mais même une résistance quand on discute avec les enseignants du secondaire en sciences, et je ne suis pas sûr que ce soit accessible. Enfin, tout le monde n'a pas cette possibilité de se revendiquer lui-même scientifique et de croiser le fer réellement. Et je crois que c'est très dommage, mais c'est toi la spécialiste de la formation des maîtres, mais il y a probablement un défaut de la formation des maîtres ou de la formation des enseignants de ce point de vue-là.
Il va de soi que si les enseignants de lettres se méfient de la science-fiction, si c'est au programme, ils préféreront... 1984 ou Bradbury, ce qui est très logique, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de science. Et quand il y a un peu de science, ils ne sont pas à l'aise parce qu'ils ne maîtrisent pas. Donc un enseignant n'aime pas aborder une œuvre quand il ne maîtrise pas l'œuvre. Et quand l'ouvrage de science-fiction traite vraiment des sciences, ils ne vont pas faire appel aux profs de physique. Et ils préfèrent éviter de se mettre en danger, tout simplement.
Alors, il existe quelques équipes rares, moi j'en connais, je suis allée les voir il y a quelques temps, qui se lancent dans des projets, effectivement. Bon, maintenant il y a les projets pluridisciplinaires, tout ce qui va nous sortir à la rentrée, là. Je ne vais pas en parler ici, mais fondamentalement, on peut rencontrer des équipes qui sont demandeuses, mais c'est vraiment lié à des jeux de confiance, effectivement, entre les enseignants, c'est-à-dire que l'enseignant de maths accepte que, effectivement, il en connaît. Il ne sait pas trop comment aborder une œuvre littéraire, que le littéraire reconnaît qu'il ne sait pas trop comment aborder les choses d'un point de vue scientifique, et puis que les deux vont se mettre ensemble, ou les trois, pour travailler ensemble sur une œuvre. En revanche, j'ai été contactée par des collègues qui me demandaient mais donne-nous des titres, donne-nous des idées d'ouvrages sur lesquels on pourrait travailler ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est pas si facile que ça, de trouver dans les romans jeunesse des œuvres qui permettent de faire travailler ensemble un prof de maths, un prof de physique, un prof de français, un documentaliste. Moi je travaille plutôt avec les enseignants du primaire. Donc au primaire, on n'a pas ce problème du rapport à la discipline, parce qu'essentiellement, de toute façon, quasiment tous ne maîtrisent pas, savent qu'ils ne maîtrisent pas, et donc sont prêts à apprendre. Donc on se retrouve dans un jeu différent. Mais effectivement, au niveau des profs du secondaire, je ne vais pas parler de la France parce que je ne forme pas d'enseignants du secondaire en France. Il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'aller en Suisse pour intervenir avec des enseignants du secondaire. Et lorsqu'on leur propose, c'était d'astronomie que je leur proposais, c'était de travailler sur des jolies images, d'un seul coup, il fallait qu'ils bossent. Enfin, il fallait qu'ils remettent à jour leurs connaissances, et effectivement, ça a été très mal perçu. Mais il va falloir que je fasse tout un travail de recherche avant de pouvoir faire une heure de cours, mais vous n'y pensez pas, mes chers. Ça arrive. Alors après, à côté de ça, il y a des enseignants enthousiastes qui se saisissent de la chose et qui se disent mais pourquoi j'ai pas pensé avant ? Donc on a toujours un peu tout ça. Moi, je vais revenir sur Anne, parce que c'est un auteur que... sur lequel j'ai... C'est un auteur qui, typiquement, avait... Tu me contrediras, Eric est l'un des spécialistes, le spécialiste français d'Einheim, avec solution non satisfaisante.
C'est un auteur jeunesse, Einheim aussi.
Mais Einheim, très clairement, dans ses bouquins, je vous en ai rapporté un, ils ont été réédités il n'y a pas très longtemps au Livre du Poche, je vous ai ramené le Vagabond d'espace, là. Mais Einstein, dans ses bouquins, avait une volonté explicite de donner envie à ses lecteurs de s'ouvrir la tête et non seulement d'apprendre des choses, mais il leur il leur présentait des défis. Bon, moi, je suis didacticienne, c'est-à-dire que essentiellement, mon objectif, c'est d'aider les élèves et les enseignants à faire passer des connaissances, des méthodes scientifiques. Mais il y a certains éléments sur lesquels on a tous des conceptions initiales qui sont très fortes. C'est-à-dire que si je vous pose une question, vous allez me répondre spontanément un truc qui est faux. Voilà, mais parce qu'on a un vécu d'enfant, d'adulte, qui fait que le monde, on le perçoit avec des œillères. Et puis, on a tous des modes de raisonnement un peu... je ne vais pas revenir là-dessus, excusez-moi, je m'égare. Mais typiquement, là, dans le vagabond d'Espagne, de l'espace, Einstein joue sur ça. Il y a un calcul de distance, il y a un calcul de durée, plutôt, pour aller de la Terre à la Lune. C'est au tout début de son bouquin. Et c'est important pour les gamins. Donc, il y a des gamins qui ont été enlevés. Et donc, le vaisseau va relativement vite, il va à 1G. Et puis, à un moment, pour aller sur la Lune, on part dans un sens, on accélère, et puis après, il faut ralentir. Et on a un retournement du vaisseau. Et évidemment, au moment du retournement du vaisseau, ça se fout. Et la gamine fait des calculs et dit il faut qu'on se prépare parce que dans 10 minutes, ça va se couer. Et si on fait, si les gamins font le calcul, ils ne vont pas trouver ça. Ils ne vont pas trouver la durée qu'Einstein a calculée. Il donne tous les éléments pour faire le calcul. Il ne le fait pas, il donne juste le résultat. Mais si un gamin un peu curieux fait le résultat, essentiellement, il ne trouvera pas ce résultat-là. Le bilan des courses, c'est qu'il va penser, c'est un auteur de science-fiction, il s'est planté. Hein. Mais on continue dans le bouquin. Et à un moment, le héros se retrouve sur Pluton. Et il refait les calculs. Parce que là, combien de temps il faudrait pour que je revienne sur Terre en fonction de la vitesse à laquelle je me déplace. Et là, il refait les calculs, et là, les équations sont posées. Mais alors, c'est très court, parce que c'est vraiment du basique. Et il y a le gamin qui se dit, ah oui, là, il faut que je fasse attention, surtout, je ne peux pas faire le calcul sur l'ensemble du trajet, parce que je suis avec des accélérations, je suis avec du second degré, et il faut que je prenne la moitié de mon trajet, je fasse le calcul sur la moitié de mon trajet, et qu'ensuite, je fasse le calcul sur l'autre moitié. Et ça, c'est l'erreur que font quasiment tous les gamins lorsqu'ils font les calculs. Et le trajet, le calcul de durée entre la Terre et la Lune, les gamins qui ne trouvent pas le bon résultat, enfin le résultat d'Einstein, c'est parce qu'ils font cette erreur-là. Et là, on a un jeu avec le lecteur, un peu curieux, sur ces représentations de départ. Et donc là, le gamin un peu malin qui voit le calcul là, se dit « mais j'avais peut-être pas fait ça ». Et donc il peut reprendre le calcul du début et se dire « ah bah, je me suis fait avoir ».
Estelle vient de vous résumer le bouquin.
Non,
mais enfin, je veux dire, elle vient de vous en parler.
Il y en a plein.
Elle vient de vous en parler. C'est un livre atypique. Habituellement, dans le milieu pédagogique, certains livres pour adultes deviennent accessibles aux enfants. C'est comme ça que le super best-seller au théâtre en 6e, c'est Le médecin malgré lui, que Molière n'a jamais écrit pour les élèves de 6e. Mais c'est c'est comme ça. Bon, je ne parle pas de Marcel Pagnol, etc. Bon, les œuvres pour adultes deviennent des classiques pour la jeunesse en collège. C'est l'inverse. Et ce n'est pas noté, mais ce livre est un livre jeunesse, le héros est jeune, c'est un roman pour la jeunesse, Young Adults, écrit par Robert Heinlein, pour les jeunes, sorti aux États-Unis pour les jeunes, traduit en 79 et publié en 79 dans la collection L'Âge des étoiles de Gérard Klein et Karine Brown, pour la première fois, pour les jeunes. 11 titres parus. Je pourrais vous les citer tous les 11 parce que je fais partie du lot, hein, et on n'était pas beaucoup.
Dont un certain arbre.
Dont l'arbre miroir de Christian Léourier, dont le montreur d'étincelles, dont l'âge des étoiles aussi, qui était le nom de la collection, et dont le vagabond de l'espace, qui est celui-ci, donc de Robert Heinlein. Donc, ce livre est ressorti aujourd'hui, vous l'achetez pour adultes. C'est un livre jeunesse. Et ce que vient d'expliquer Estelle montre qu'il y avait l'exigence, et c'est un bouquin qui a 50 ans, hein, l'exigence chez Robert Heinlein, et cette exigence qui est la même que nous quand nous nous adressons aux jeunes qui sont des lecteurs en effet, exigeants. Et je dirais qu'on l'est souvent beaucoup moins pour les adultes aujourd'hui. Grand classique, mais c'est devenu un livre pour adultes.
Ben oui, parce qu'aucun gamin ne supporterait actuellement l'exigence de ce livre. Là, tu as un rejet absolu à 99,99999% par les jeunes actuellement.
Ça, c'est peut-être l'effet Harry Potter.
Oui.
Oui, pour rester avec Robert Heinlein, il me semble qu'il y a un autre élément dont on n'a pas encore parlé, qui est l'attention non seulement à la science, mais à l'ingénierie. Tu parlais de vulgarisation. Quand on pense de vulgarisation, en général, on pense à la vulgarisation de lois physiques, de préceptes scientifiques bien carrés. C'est en général pas ça qui est très intéressant quand on raconte une histoire, c'est plutôt ce qu'on est capable de faire avec la physique qui est intéressant. Et ça, c'est plus un point de vue d'ingénieur. Une illustration que j'aime bien pour la différence entre la science et l'ingénierie, c'est quand on parle de fusée, on peut démontrer que, bon, il y a un exercice de physique que tout le monde fait en terminale, on peut démontrer qu'il est impossible d'envoyer une fusée sur la Lune, parce que la masse de la fusée croît exponentiellement avec la charge utile. Donc si on veut envoyer des hommes sur la Lune, il faudrait être capable de faire décoller une fusée absolument monstrueuse.
La fusée d'Hergé n'existe pas.
Absolument.
Pas elle ne décolle pas.
Et c'est quelque chose qu'on peut démontrer, calculer de façon très propre et démontrer de façon très exacte qu'il est scientifiquement, sous quelques hypothèses simplificatrices, impossible d'envoyer une fusée sur la Lune. Comme il est possible de démontrer, comme je crois que c'est Painlevé qui avait démontré, qu'il était, sous quelques hypothèses simplificatrices, impossible de faire voler un plus lourd que l'air. Et ça, c'est l'application de lois physiques relativement simples avec, on prend le cas le plus simple possible, on prend une fusée, on met du carburant dedans, on met une charge utile, et puis on regarde ce qui est possible et ce qui n'est pas, et ça pose une limite. Ça, c'est le point de vue du physicien, en quelque sorte, c'est le point de vue du scientifique. Mais c'est oublier l'ingénierie. Typiquement, dans le cas de la fusée, c'est vrai, on ne peut pas envoyer la fusée de Tintin, mais une fusée à étage, on peut. Et le calcul n'est plus du tout le même si, au lieu de prendre un cas très simple avec une fusée et avec une charge utile, on prend en fait 3 ou 4 fusées empilées et qu'on se débarrasse des étages inférieurs, il devient tout à fait possible d'envoyer une fusée sur la Lune, et d'ailleurs, on l'a fait. Et ça, c'est le point de vue justement du technologue, de l'ingénieur, le terme grec m'échappe, mais il y a les Grecs ont différentes définitions de l'intelligence. Il y a l'intelligence formelle et il y a ce qu'ils appellent la métis. La métis, c'est l'intelligence astucieuse, c'est l'intelligence de Ulysse pour le cheval de Troie, c'est l'intelligence d'ingénieur qui, face à une prétendue impossibilité, quand on cherche à être trop simple, bah, contourne les choses.
C'est le levier.
Enfin, c'est tout l'art d'aller chercher une solution là où on ne pense pas nécessairement à aller quand on cherche à raisonner trop simplement. C'est tout l'art de l'ingénieur et, à mon sens, c'est aussi tout l'art de l'auteur de science-fiction. Pour raconter une bonne histoire, le plus souvent, on ne prend pas un problème de physique tel qu'on le pose en terminale et en résolvant bêtement pas à pas toutes les étapes du problème. On complique un petit peu le problème et puis on cherche à être astucieux et à trouver des choses qui soient à la fois jolies et intelligentes. Et quand c'est joli et intelligent, ça séduit tout le monde, y compris les gamins.
Je précise, c'est une parenthèse, que la fusée à étage n'a pas été inventé ni par Tsiolkovski ni par Werner von Braun, mais par un certain Cyrano de Bergerac dans L'Autre Monde, 1600-1657. Ça figure dans L'Autre Monde. Et Cyrano de Bergerac était l'élève de Gassendi, quand même, scientifique, mais c'était un écrivain. Et c'est lui qui a préconisé la fusée à étage pour la première fois, 300 ans avant. J'ai fermé la parenthèse.
Il n'y a aucune idée de l'heure.
11h15.
Est-ce qu'il y a des choses après qui suivent et auquel cas on
a des questions?
Oui. Alors on est en retard, mais on a commencé en retard aussi. Est-ce qu'on peut prendre quand même quelques questions dans la salle? On vous a complètement.
Je veux dire quelque chose au niveau de l'enseignement. Ça fait quelques années que je suis retraité, j'étais prof de français pour 42 ans et 32 ans par là. L'autre chose, c'est que la science-fiction ce n'est pas la réputation à la pire, hein, l'éducation nationale. Il y a, les profs de français en faisaient pas mal, jusqu'au moment où il y a eu des programmes qui indiquaient ce qu'il fallait faire exactement en classe. Alors là, on a été un peu coincés. Mais ça revient ces dernières années. Dernière chose, je suis victime d'une double dégradation à titre civil et militaire, parce que la science-fiction, ça avait du mal à passer. Parfois, on me disait, ah, pourtant, t'avais l'air bien, hein, quoi, c'est la science-fiction. Mais pire que ça, je suis spécialiste de San Antonio. Alors, si vous dites un truc comme ça dans l'éducation nationale, c'est vachement littéraire.
Dehors.
Ici, même à la convention, on dit, ah, pourtant, il avait l'air bien. Donc, vous voyez qu'il y a bien pire. Donc, la science-fiction.
Enfin, pire à citer San Antonio et personne n'a hurlé.
On en a fait une société. Voilà.
Frédéric Larrette est un écrivain, quand même.
Vous avez donné San Antonio comme étant quelque chose de très bien. Et pourtant, c'était un vieux.
Bon, c'est bien. Bon, ceci étant...
J'ai dit, il va conclure.
J'ai l'impression que Georges
va conclure. Il va conclure, Georges.
Dit sur l'enseignement en disant qu'on vient d'entendre annoncer comme des vérités générales ce qui n'est malgré tout qu'un ensemble de cas particuliers dans un problème totalement statistique avec une infinité de réponses différentes.
Tout à fait.
Oh là là.
Voilà, c'est la conclusion.
Ah, il y a une conclusion de la conclusion et une conclusion de la conclusion de la conclusion. Jean-Louis, vas-y.
Après le commentaire très français de Georges Bormann, je voudrais amener mon pragmatisme canadien et demander s'il existe un prix pour le meilleur roman de science-fiction jeunesse qui fait preuve de vulgarisation scientifique, et sinon proposer qu'on le crée, et tu me sembles bien placé pour le faire.
Sponsorisé par l'Université de Bordeaux.
Sponsorisé par l'Université de Bordeaux, c'est une idée.
Il n'y aura pas assez de livres qui fassent vraiment de la vulgarisation scientifique. Si on a un seul, il aura le prix tout de suite.
Il y avait un grand prix de la science-fiction française avec une version adulte et une version jeunesse, et ça s'est transformé en grand prix de l'imaginaire pour que la fantaisie puisse y trouver sa place. Et je dirais que
la science-fiction jeunesse qui fait preuve de vulgarisation scientifique.
Il y aurait trois livres en compétition, ça ne marcherait pas.
Ça encouragerait la création, justement.
Peut-être.
Trois livres par décennie.
Il y a très peu de choses. Pour information, bon, les universités...
Ouvrez-le aux auteurs francophones.
Oui.
Alors, juste une petite question. Au début du siècle dernier, avant la Première Guerre mondiale, avait été rédigé un livre à l'attention du cours élémentaire. Ça s'appelait Le Tour de France.
C'était avant ça.
Remarquable. Et à savoir que dans une narration, l'histoire de deux orphelins, sur les Prussiens, bien entendu, ils font un tour de France. Et alors, le récit qui est vraiment un peu à la Hector Malot, hein, donc c'est très triste, c'est aussi porteur d'espoir. Ces enfants progressent, un parcours initiatique. Et ce récit, très littéraire, est émaillé à chaque fois que, par exemple, ils vont dans une ferme dans laquelle on va faire des fromages. Et on explique comment, avec des croquis, on fait des fromages.
Les aciéries de poseaux,
le goût de grisou, je crois aussi, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et à chaque fois, on explique des phénomènes physiques. Et y a-t-il un équivalent au XXIe siècle
d'un ouvrage? Il existe.
Il n'y a pas d'équivalent, tout simplement parce qu'à la télévision, on me demande aussi pourquoi on ne peut plus lire Jules Verne aujourd'hui. On ne lit plus Jules Verne aujourd'hui, ou alors on le lit dans des versions expurgées, parce que dans 20 milieux sous les mers, 800 pages, il y a 650 pages de description de la mer, des holothuries, des poissons, des plantes, etc. Aujourd'hui, le livre pédagogique de commande et Charles Vildrac, que nous avons connu, a été l'un de ceux qui ont écrit L'île rose, La colonie, Amadou le bouquillon, Les lunettes du lion, était à destination des cours primaires pour apprendre à lire. La mission était donc d'être informatif, de dire comment était le monde. C'était également la mission du Tour de France par deux enfants. Et aujourd'hui, c'est impossible parce qu'il paraît évident que toutes ces descriptions, les villes, les technologies, etc., ça passe par la télé. Le public, le grand public et les jeunes en particulier sont censés connaître tout ça, savoir tout ça. Et les enseignants d'ailleurs sont invités par les instructions à expliquer, à expliciter, à étudier l'image de la BD, la construction, etc. L'information existe. Il y a Wikipédia. Donc, l'information aujourd'hui, elle est là. Il y a 100 ans, l'information, personne ne l'avait. Il n'y avait pas de télé, il y avait à peine la radio, il y avait le journal des voyages. Il y avait le journal des voyages qui était distribué par colporteur, le seul moyen d'avoir des informations sur la conquête des pôles, sur l'exploration de l'Afrique. Aujourd'hui, cette mission pédagogique, elle est, de gré ou de force, livrée par l'information et par la télé. Et aujourd'hui, par Internet. Cela dit...
Alors, il existe des livres... Il existe, je ne peux pas vous donner la collection, mais je sais que des éditeurs scolaires ont fait réaliser avec des auteurs, ou d'ailleurs parfois pas des auteurs, ce qui est bon, mais des histoires suivies. Donc une histoire suivie du début à la fin qui permet aux enfants de travailler l'histoire, enfin de travailler tout le programme. Donc ça existe. Maintenant, le côté littéraire de la chose... C'est un peu... Ceci dit, on peut imaginer le faire. On va devoir, mais on pourra continuer. Enfin voilà, on est encore là toute la journée et demain. Juste une dernière information pour les Bordelais en tout cas, et pour ceux qui voudraient venir sur Bordeaux. Bon, je vais parler un tout petit peu de moi. J'ai créé des journées science-fiction enseignement. Je les ai créées à Nice, où j'étais jusqu'à présent. Maintenant, je suis sur Bordeaux. Et ces journées ont exploré un certain nombre de disciplines, science-fiction, enseignement des mathématiques, ça c'était les dernières. Il y avait Pascal qui faisait partie des co-organisateurs. On a exploré science-fiction, enseignement de la philosophie, science-fiction, enseignement des langues, science-fiction, enseignement des sciences, bien sûr. Et cette année à Bordeaux, les 18 et 19 octobre, on va organiser à l'ESPE de Nice, science-fiction, enseignement de l'image. Donc vous voyez, ça peut se faire et ça se fait. On a des réflexions et on trouve du monde. Hein. Vous tapez science-fiction enseignement d'image, vous tomberez sur le site ou je le donnerai aux gens qui sont intéressés. En tout cas, on peut susciter, il y a un intérêt pour, même s'il reste modeste, pour l'utilisation de la science-fiction. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants, alors on a dit beaucoup de mal des enseignants, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui n'imaginent pas tout simplement ce qu'on peut en faire. Et une fois qu'on leur propose des choses et qu'on leur dit, mais regardez, voire même qu'on leur fait vivre, moi c'est ce que je fais en cours, j'utilise une image manchou, pour pas nommer, j'utilise une image de manchou et à partir de là, on est lancé. Et il suffit qu'ils prennent plaisir à ça, qu'ils se rendent compte du plaisir qu'eux peuvent prendre à le faire, pour se dire, mais ce plaisir que j'y prends, évidemment, ça va se retrouver chez mes élèves. Et à partir de là, c'est lancé. Mais effectivement, il faut lancer la machine. Mais je ne pense pas qu'il y ait une opposition, opposition brutale. Il y a une méconnaissance. Et il y a effectivement des craintes, des craintes de certains enseignants de ne pas être à la hauteur. Et je pense que ça rentre dans la formation des enseignants, mais vous savez à quel point elle est malmenée. Mais ça rentre dans la formation aussi des enseignants, de leur montrer ce qu'ils peuvent faire. Donc, ça passe par plein de biais, effectivement. Par plein de fois.
Une révolution de l'éditorialisation.
Ça pourrait faire l'objet d'une autre table ronde.
Franck Cormeray, je ne sais pas si vous connaissez.
En fait, on n'a pas dit du mal des enseignants. Ce que je veux préciser, c'est qu'on a été enseignants. Parce que ceux dont on a parlé, c'est au moins ceux qui nous ont fait venir. Ceux dont on a pu dire du mal, si on en dit, c'est ceux qui ne nous ont jamais contactés.
En tout cas, je pense qu'on a une marge impressionnante de progression.
Oui.
Mais je pense qu'on peut...
Désespérante.
C'est pas désespérant, non. Il faut garder espoir. Alors... Georges, sur ce que tu disais sur les enfants qui ne lisent plus, je pense que tu vas à Scientilivre, tu vois des files de gamins devant les stands de Christian et Daniel, et ça te redonne, ça te donne du bon cœur. Hein.
Scientilivre, il y a 15 ans de boulot en amont par l'association Délire d'encre. Ils ont fait un tel...
Je fais de l'anti...
à côté de
Toulouse.
Il y a un travail phénoménal de l'association des lire d'encre en amont. Hein.
Un mot tant évident.
Tu me diras après, c'est pas grave.
C'est-à-dire que je généralise, j'ai observé un cas dans mon ex-fils lui-même et je généralise. Et c'est exactement ce dont je veux plaider. précédemment en disant qu'on prétendait faire une vérité générale dans un problème statistique.
Alors j'en profite. N'oubliez pas qu'il faut voter pour l'ordre. Il faut d'abord que vous l'envoyiez. Vous pouvez prendre ou non le critère de vraisemblance et de
crédibilité. C'est jusqu'à quelle heure?
Jusqu'à 18h.
Jusqu'à 18h.
Merci beaucoup.